la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Aujourd'hui, c'est l'automne, le jour où les feuilles commencent à tomber et celui où nous faisons aussi notre rentrée. Et côté actualité, comment dire, une rentrée qui ressemble à un carrefour saturé. Ça klaxonne de partout, personne n'avance et tout le monde s'énerve. On a un Premier ministre, mais toujours pas de gouvernement, personne n'avance, c'est bien ce que je dis. Et pourtant, malgré cette ambiance générale, nous on est de retour. Cette saison, on va démêler tout ça. Regardez de plus près et à la loupe ce qui se passe. Essayez de comprendre et bien sûr questionner, car c'est notre travail aussi. Apporter un peu de nuance, remettre les faits à leur place, rendre audible ce qui compte. Parce que plus on comprend, moins on subit. Alors oui, c'est l'automne, saison des transitions, des couleurs qui changent et des cycles qui se renouvellent. C'est aussi notre rentrée, celle d'une équipe, d'une énergie et d'une envie de partager. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, la matinale, c'est du lundi au jeudi de 19h à 20h, en direct sur le 93.9 FM. Et si vous avez manqué l'émission, c'est aussi en podcast sur Spotify ou sur notre site. La matinale, c'est une heure ensemble, en direct. Une interview en deux temps, un tour de l'actualité et des chroniques actuelles, de la culture, de la découverte dans la rubrique Zoom et enfin une chronique humoristique. Oui, la matinale, ce sont des sujets sérieux et moins sérieux. Et puis, il y a ce qui fait notre identité. Radio Campus Paris, portée par les salariés à temps plein, enrichie de volontaires au service civique et animé chaque année par plus de 300 bénévoles. Une radio école où l'on débute, où l'on progresse, où l'on apprend, c'est un tremplin, un laboratoire et une expérience collective. Certains lancent leur propre émission, d'autres s'envolent vers de nouvelles aventures. Merci de votre fidélité, merci de partager cette aventure avec nous. Bienvenue dans cette nouvelle saison. Aujourd'hui, c'est la rentrée et on allume le micro. Au programme de cette matinale de 19h, Hugo, à l'interview, nous recevons Simon Hélien, président de l'AGEP, pour parler du coût de la rentrée étudiante dans le cadre de la publication de l'indicateur du coût de la rentrée 2025. Le tour de l'actualité, le flash info avec Fabien, chronique actu avec Félix qui va nous parler des deux streamers, Bilien et Nico, qui marchent de Montpellier à Paris, et le tout partagé en live. Le zoom, ce sera avec Agathe. Nous aurons le plaisir d'accueillir Bruno Peggy, directeur artistique du festival pluridisciplinaire d'art queer Djerkov. Et enfin, pour finir, et pas possible de finir autant, ce sera Delila avec sa chronique humoristique. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, l'interview avec Hugo. Bonsoir Hugo.
Bonsoir, comment ça va?
Ben ça va.
Super. Aujourd'hui, nous sommes avec Simon Hélien. Bonjour Simon.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci de me recevoir.
Merci à vous. Vous êtes le président de l'AGEP, l'Association Générale des Étudiants de Paris. On est ensemble aujourd'hui pour parler de l'indicateur de la rentrée étudiante. C'est un rapport qui chiffre en moyenne le coût d'une rentrée pour un étudiant, c'est ça?
Tout à fait. Alors, ça fait 24 ans qu'il existe au niveau national. Nous, en Ile-de-France, ça fait 8 ans qu'on le sort pour essayer de mesurer un peu tous les frais qu'on demande à un étudiant à la rentrée pour voir s'ils vont à la hausse et surtout, à côté de ces frais, proposer des vraies solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui changer dans les questions de transport, de logement, de restauration, pour arriver à ce que les étudiants puissent avoir un quotidien plus décent.
Et vous êtes président de l'AGEP, c'est quoi l'AGEP?
Alors l'AGEP, c'est l'Association Générale des Étudiants de Paris, on est une fédération étudiante. En gros, on regroupe 41 associations, 130 élus étudiants dans les universités, au CROUS, et nous, notre taf, c'est d'être une association apartisane, donc en fait, juste, on fait du relais de proximité avec les étudiants, on les forme, on fait de l'éducation populaire, puis ensuite, on porte les positions auprès des institutionnels, donc mairie, département, CROUS, et à côté de ça, on tient des projets pour aider concrètement les étudiants. Donc on a une agorée, par exemple, une épicerie sociale et solidaire dans le 13e. Voilà. Donc on a lié projet, représentation étudiante. Le but à la fin, c'est que les étudiants aient de meilleures conditions de vie et d'études à Paris.
Et justement, c'est la grande rentrée là. Et comment est-ce qu'elle se présente cette rentrée?
Plutôt mal, mais c'est pas forcément une... nouveauté pour les étudiants, parce que ça fait un sacré moment que les coûts de la rentrée augmentent en raison de plusieurs choses. L'inflation en fait que la plupart des coûts ils sont corrélés. La CVEC, les frais d'inscription augmentent cette année une nouvelle fois, là où les étudiants, eux, n'ont pas des revenus qui sont corrélés à l'inflation. Les bourses étudiantes, par exemple, n'y sont pas corrélées, ne tombent pas l'été. Donc la rentrée, c'est toujours un moment un peu de crise pour eux.
Et justement, combien est-ce qu'elle coûte cette rentrée cette année ?
Alors chez nous, elle coûte 3 689 € en Ile-de-France cette année. C'est 2 302 € de frais qui sont vraiment des frais de rentrée. Et donc là-dedans, on met tout ce qui est CVEC, frais d'inscription, complémentaire santé, le dépôt de la garantie pour le logement, etc. Et c'est 1 386 € de frais de vie courante, et donc par mois. Donc. Et donc là, on va mettre ce qui sera le logement, les transports, l'alimentation, ce genre de choses.
Et c'est quoi les principales causes de dépenses ?
Alors, ce sera toujours la même. En Ile-de-France, c'est le logement qui est un énorme poste de dépense. C'est 690 € à peu près en Ile-de-France pour moins de 20 mètres carrés. Donc, c'est la moitié du budget en somme. Et il diminue de moins en moins parce que l'encadrement des loyers, il n'est pas valable partout en Ile-de-France. Et là où il est, il n'est pas souvent respecté. L'encadrement des loyers, c'est qu'on ne peut pas dépasser un certain prix pour une certaine surface. En plus, c'est une expérimentation. Donc, ça se trouve, dans un an, ça n'existera plus, même à Paris, en Seine-Saint-Denis. Et donc, dans un an, les loyers vont encore pouvoir davantage augmenter. Le transport aussi, le Pass Navigo, il a pris 10 € cette année. Il coûte 392,60 €.
Il y a les Vélib qui augmentent aussi cette année.
Les Vélib ont monté là en août en plus, et c'est un peu tombé de nulle part. Maintenant, un Vélib bleu, c'est 50 centimes chaque trajet. Ouais, c'est ça, ça vient un peu de nulle part. Il n'y a aucune démocratie étudiante. Il n'y a pas d'étudiants qui doivent être impliqués aussi dans ces conseils d'administration. Donc forcément, on apprend un peu le truc d'un coup et on doit s'adapter, surtout en août. Donc c'est un peu galère. Et puis là, de ce qu'on parle de choses qui sont réservées aux moins de 26 ans. Parce que dès qu'on est étudiant et qu'on a plus de 26 ans, qu'on est en thèse ou en conversion, c'est la galère. C'est 1 000 € le pass Navigo pour un an, quoi.
C'est énorme. Justement, par rapport au logement, pour revenir à ça, l'année dernière, on était en post-JO en septembre. Est-ce que c'était pire qu'aujourd'hui ou ça reste plus ou moins similaire ?
En fait, ça reste plus ou moins similaire parce que le JO, il a pu concerner, par exemple, le parc locatif privé. Oui. Donc là, on voit des particuliers. Le gros problème de Paris, c'est qu'il y a très très peu de logements sociaux étudiants de base qui, eux, ont été moins impactés par les JO. Donc en fait, on a la même dynamique qui est qu'en Ile-de-France, il y a 7,2 logements sur 100 qui sont des logements sociaux étudiants. En moyenne, en France, c'est entre 8 et 9. Et on voit que presque 60% des étudiants, quand on les consulte dans la rue, aimeraient avoir un logement CROUS, là où actuellement, il n'y a que 2 logements CROUS pour 100 étudiants dans tout Paris.
Ce qui est énorme. Et vous le disiez, un encadrement des loyers, mais qui n'est pas vraiment respecté par les agences ou les propriétaires.
C'est ça. C'est plutôt les propriétaires qui, eux, de leur côté, peuvent y contrevenir. Et en fait, il y a plein de recours qui existent. Mais une nouvelle fois, l'information, elle est mal donnée aux étudiants en général. Et ils ne savent pas comment avoir le recours nécessaire et l'accompagnement aussi juridique et administratif pour le défendre. Et puis, comme je vous le disais, dans un an, vu que c'était une expérimentation municipale, si on n'aboutit pas à une évolution nationale de la loi, l'expérimentation tombera à l'eau. Et donc, quoi qu'il arrive, 20 mètres carrés pourra coûter à nouveau 1 000, 1 100 € sans problème, quoi.
Et l'anxiété de ne pas trouver un logement, justement, ça va impacter les études de chaque jeune, non ?
J'imagine. Ça, totalement. L'anxiété, de toute façon, la charge mentale des étudiants liée à leur situation de précarité, elle est manifeste parce que, de un, ça les oblige souvent à se salarier à côté pour pouvoir aussi couvrir d'énormes frais de logement. Et on sait que le salariat ou justement la précarité, elle est le premier facteur d'échec académique en général. Donc, ouais, c'est un gros stress pour eux.
Est-ce que ce salariat, justement, il est de plus en plus fréquent ?
Ah oui, bien sûr. On sait que beaucoup plus d'étudiants sont obligés de se salarier parce que les bourses, en fait, elles répondent absolument plus aujourd'hui aux critères des gens qui auraient besoin d'en avoir. Nous, par exemple, notre appli sociale solidaire, on sait qu'au niveau national, 63% des gens qui en sont bénéficiaires, ces agorae, ils sont pas boursiers. Donc en fait, les épices sociales aujourd'hui, elles servent plus d'étudiants pas boursiers parce que en fait, ils ont pas eu accès à une bourse dont ils auraient besoin, et donc ils sont obligés de se salarier parce que c'est la seule solution qu'ils ont, quoi.
Ça, c'est dû à quoi, le non accès aux bourses?
C'est les questions de seuil. C'est que en fait, le problème de la bourse, c'est qu'actuellement, elle touche environ 700 000 étudiants. Nous, on estime qu'il y a un besoin à au moins déjà 1 million d'étudiants de façon urgente. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de calcul avec le reste à vivre, en fait. Et il y a plein d'étudiants qui sont au-dessus de ce critère et qui, pourtant, vu que ce critère, il est trop bas, ça correspond pas à des besoins décents pour pouvoir s'alimenter, se loger, juste survivre, en fait, en tant qu'étudiant.
Il y a aussi une autre dépense, c'est l'alimentaire. Et si déjà le logement coûte cher, l'alimentaire reste flexible, au final. L'étudiant va faire avec ce qui lui reste.
C'est exactement ça. L'alimentaire, c'est la première variable d'alimentation dans un budget. Donc, en fait, quand vous coupez quelque chose, malheureusement, quand tout augmente, c'est un peu l'alimentaire. Nous, on voit dans des prix sociaux et solidaires que, les demandes, elles augmentent. Les gens veulent de plus en plus venir. Et on sait, c'est une enquête de copains. 20% des étudiants en général en France ont déjà eu recours à des aides alimentaires. Et à mon avis, ça va pas s'arrêter d'ici là.
Et vous parliez aussi des frais principaux, c'est les frais de la rentrée, les frais des écoles qui augmentent. Est-ce qu'on va vers un système à l'américaine où tout va devenir cher pour rentrer dans une école ?
Pour l'instant, pas forcément, parce que tout ce qui est en université, donc licence, master, doctorat, c'est régi par une loi, et donc les tarifs sont régis par une loi. Par contre, le fait qu'il y ait des écoles privées qui puissent avoir des budgets décorrélés de ça, mais qui du coup délivrent pas des licences, master, doctorat, oui, ça peut être inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est que pour la première fois depuis plusieurs années, les frais d'inscription, même au niveau national, donc licence, master, doctorat, ils ont augmenté d'1,7%. C'était pareil depuis plusieurs temps, donc on s'inquiète, parce que si même le national monte, bah, ça paraît être que quelques euros, mais c'est toujours quelques euros que les étudiants n'ont pas, quoi.
Et l'État avait annoncé, sous le gouvernement Bayrou, une année blanche des aides sociales, c'était le projet de loi de finances de 2026. Est-ce qu'il y a une crainte que ce projet soit maintenu sous le gouvernement Lecornu?
Il y a une crainte, et puis en fait on sait que c'est un nombre d'étudiants qui tomberont dans la précarité ou qui en tomberont davantage, qui sera accru. Enfin, on le voit, les étudiants, ils ont absolument besoin de ces aides sociales. Ils ont besoin, au-delà juste d'avoir les aides sociales existantes qu'on augmente, nous on plaide par exemple une réforme des bourses qui répondrait juste à des enjeux pragmatiques et à la situation de précarité. Et en fait, il y avait une première réforme des bourses il y a quelques années qui avait permis juste de rattraper les niveaux de seuil en augmentant un peu le niveau des bourses, mais bah, l'inflation, les effets de seuil, les effets d'éviction, toutes ces petites choses de la machine ont envoyé la machine, et aujourd'hui on est revenu à la situation d'il y a 5 ans.
Mais parce qu'en fait, comme vous le disiez, c'est une situation qui est déjà vécue par les étudiants, parce que les bourses sous critères sociaux ne sont pas indexées sur l'inflation. Comment on explique cela? Pourquoi c'est pas fait? Pourquoi c'est pas indexé?
Ça peut être indexé sur l'inflation, bah c'est un calcul justement que nous on ne comprend pas, et nous on demande que ce soit le cas dans ce qu'on plaiderait comme réforme des bourses. La réforme des bourses aujourd'hui elle pose plein de problèmes parce que elle n'est pas indexée sur l'inflation, les bourses elles tombent pas l'été, donc les étudiants se retrouvent généralement sans revenus, alors qu'à Paris si on rend par exemple son logement l'été, bah, on n'est pas sûr de retrouver en septembre, donc souvent on a besoin de payer son logement à la rentrée. Et puis surtout les étudiants internationaux ne peuvent pas être éligibles aux bourses et au régime de bourse nationale. Et donc ça c'est un gros problème parce qu'en l'état ça les entraîne dans une spirale de précarité qui est importante. 60% de nos bénéficiaires sont souvent des étudiants internationaux qui ne sont justement pas aidés par ce système des bourses qui les exclut d'emblée.
En parlant d'étudiants étrangers, il y avait un plan qui était fait par Edouard Philippe en 2018 qui s'appelait Bienvenue en France, qui visait à différencier les frais pour les étudiants étrangers par rapport aux frais des étudiants français. C'est quoi ce plan et il n'a l'air d'avoir aucun sens justement?
Alors ce plan, tout à fait, c'est le plan Bienvenue en France qui a permis de faire en sorte que les étudiants extra-communautaires, donc résidents en dehors de l'Union Européenne, payent 16 fois plus cher quand ils s'inscrivent à l'université qu'un étudiant communautaire, donc résident dans l'Union Européenne. En gros, on passe de 175 euros une licence à 2876 euros. C'est un coût qui est irréaliste, c'est un coût qu'aucun étudiant ne peut se permettre d'avoir. Les universités en général ont fait l'effort elles-mêmes et ont pris sur leur budget pour pouvoir compenser ces frais différenciés, sauf que selon la loi, elles n'ont pas le droit de le faire pour plus de 10% de leurs étudiants. Et donc elles commencent elles-mêmes budgétairement à avoir du mal. Les universités ont longtemps compensé ce que l'État ne versait pas pour l'enseignement supérieur. Mais aujourd'hui, bah, on voit que nos universités, elles sont en déficit pour la majorité, y compris parce qu'elles doivent compenser ce qu'on ne reçoit pas pour juste pouvoir financer nos études, quoi.
Et c'est quand même très paradoxal de vouloir attirer les étudiants étrangers en augmentant les frais pour eux. Enfin,
Bah ouais, un peu, c'est qu'on vante, et en plus ils sont essentiels, ces étudiants internationaux, ils représentent parfois 40% de notre recherche, et donc en fait ils constituent pour les doctorants une part essentielle du savoir académique qu'on produit dans nos universités, et pourtant il y a un effet repoussoir avec ces prix qui fait que bah, dans un double mouvement, on veut attirer la recherche, on veut investir dans l'innovation, mais on repousse les gens qui veulent venir en faire, donc ça n'a pas de sens.
Et on reste quand même dans les premiers pays mondiaux d'accueil d'étudiants étrangers, je crois.
Ça oui, pour le coup, c'est une fierté. Enfin, je veux dire, en termes de production de savoir académique, c'est indéniable et on a de la chance d'avoir des universités de recherche qui peuvent être compétitives et elles le sont parce qu'il y a des gens qui ont envie de venir étudier et qui méritent de fait pour étudier d'avoir des conditions de vie dignes et décentes.
Et ce plan Bienvenue en France, est-ce qu'il a été remis en question? Est-ce qu'il y a une réforme de prévue ou est-ce qu'il a jamais été discuté au final?
Alors il a été évidemment condamné par du coup l'AGEP mais aussi par l'organisation nationale qui s'appelle la FAGE parce qu'on ne peut avoir le sens. Nous on appelle de nos voeux à ce qu'il soit aujourd'hui, à ce que ces frais d'inscription soient abolis parce qu'ils n'ont pas de sens. En l'état il n'est pas remis en question et puis bah, nous justement ça fait partie des points sur lesquels dans une réforme plus structurelle dont je vous parlais des bourses etc. on voudrait qu'il y ait un vrai investissement massif dans l'enseignement supérieur qui est juste nécessaire et ça devrait en faire partie, ouais.
Et quelle réforme pourrait être mise en place? Est-ce qu'on enlèverait complètement ce plan et on ferait un autre plan? Est-ce qu'il y a une solution
Bah nous, on part du principe que l'université, c'est un lieu d'accès à l'étude et c'est un lieu d'égalité des chances. C'est comme ça qu'a été pensée l'université. Enfin, le mot universel, qui est dans le mot même, le défend. Et donc pour nous, l'université, elle devrait juste être ouverte à un tarif qui est le même pour tous les étudiants et étudiantes, du moment qu'ils ont la même qualité qui est celle d'être étudiant et étudiante.
Après le logement, l'alimentaire, les frais étudiants, est-ce qu'il y a une autre dépense qui est forte pour les étudiants à la rentrée?
Ouais, il y en a d'autres auxquelles on pense moins, mais par exemple tout ce qui est vie culturelle et vie sportive, en fait, bah, c'est une question où quand on n'a pas l'argent déjà pour le logement, pour l'alimentation, pour les transports, on finance pas d'activités culturelles. 80% des bénéficiaires de nos épiceries, par exemple, ne souscrivent pas à une activité culturelle, 44% pas à une activité sportive. Donc en fait, on voit que, en effet, quand on n'a déjà pas de quoi subvenir à des besoins pour survivre, on ne peut pas vivre rien qu'en faisant du sport ou une activité culturelle.
Et le loisir, de plus, c'est super important pour le bien-être mental d'un étudiant.
Ah bien sûr, et puis ça permet d'enchaîner sur la santé mentale, où là on voit qu'il y a un vrai problème pour les étudiants. Il y a un psychologue pour 15 000 étudiants sur Paris, par exemple, qui est disponible via le service de santé étudiant, c'est beaucoup trop peu et ça répond pas aux enjeux, ouais.
Alors, on va revenir après une petite pause musicale. On va écouter donc No Sex Last Night, excusez-moi, avec le titre Cours dans la forêt. Il est 19h15 et vous êtes sur Radio Campus Paris. Vient d'écouter No Sex Last Night avec le titre Cours dans la forêt. Et on retrouve tout de suite Hugo pour la suite de l'interview.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Oui, je suis toujours avec Simon Elienne qui est président de l'AGEP, l'Association Générale des Étudiants de Paris. Nous parlons de la rentrée étudiante et du coup de celle-ci avec l'indicateur du coup de la rentrée étudiante 2025. Juste avant, on parlait de la charge mentale étudiante et de l'accès aux psychologues en Île-de-France particulièrement ou pour les étudiants en France. Il reste très compliqué, ce que vous me disiez.
Il reste très compliqué parce que il y a peu de dispositifs qui sont mis en place et quand ils sont mis en place, ils sont soit saturés. Je pense par exemple au SSE, Service de Santé Étudiant, qui en plus n'est pas accessible pour tous les étudiants. Il y a plein d'étudiants qui ne sont pas dans les campus. Et généralement, on imagine l'université comme un campus où il y a juste un site universitaire. Bah, Paris, en fait, c'est presque 100 lieux d'enseignement dans tout le territoire. Il y en a qui sont super loin, qui peuvent être des fois à 45 km l'un de l'autre. Et donc, en fait, bah, la couverture des services de santé étudiants, ça doit être aussi des petites antennes qui actuellement n'existent pas pour mailler bien le territoire. Donc, il y a ce problème-là. Et puis, il existe aussi des dispositifs municipaux qui sont déjà en place pour lutter en faveur de la santé mentale des étudiants, mais qui eux sont pas du tout connus parce qu'il y a un problème d'information. Donc nous on essaie de faire un peu ce relais d'information, mais on constate que les étudiants aussi à Paris arrivent, il y a une manne d'informations de partout et ils peuvent pas avoir les celles essentielles pour juste pouvoir bien vivre, pour être écoutés gratuitement si besoin.
Quand on parle de saturation et aussi d'information, on pense aussi aux bourses du Crous, on en parlait précédemment. C'est important d'en parler parce qu'on a un public qui est étudiant à la radio. Elles sont pas, vous nous disiez, territorialisées, c'est-à-dire que le coût reste le même, que ce soit à Paris ou à Niort. On va verser la même somme, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça. C'est que par exemple, le coût, je vous ai donné l'indicateur du coût de la rentrée en Île-de-France, c'est 3 689 €. Au niveau national, il est 400 € moins cher à peu près. Donc c'est la moyenne nationale montre que nous on a une surpondération et on a une surcharge financière qui est évidente en Île-de-France. Par contre le montant des bourses c'est le même au niveau national. Nous on plaide une territorialisation de ce montant parce qu'il permettrait de répondre concrètement au fait que un logement ça coûte plus cher, le transport coûte plus cher, les activités et même rien que la nourriture coûte plus cher dans les supermarchés parisiens.
Il y a aussi un problème d'accès hein, parce que si on est relié à ses parents mais qu'on leur parle plus, qu'ils nous ont virés de chez eux, on n'a pas de moyen de le prouver, on est quand même dépendant de leur revenu à l'année.
C'est ça, c'est ce que nous on plaide comme étant la défamilialisation. Donc en fait on souhaiterait à terme qu'un étudiant soit considéré comme une personne et un citoyen qui a ses ressources fiscales et financières propres et qui n'ait pas à dépendre de ses parents. En fait au-delà d'être juste ça, c'est aussi un changement dans le paradigme de la société parce qu'on considère depuis toujours qu'un étudiant ça reste le fils ou la fille de quelqu'un, alors que non, c'est un citoyen à part entière qui a des droits civiques et moraux et qui doit aussi avoir des droits fiscaux et financiers de fait.
C'est ça, ça a été débattu au gouvernement. Est-ce qu'on remet en question ce système de bourse aujourd'hui?
Alors ça fait des années qu'il y a un peu un vieux serpent de mer sur cette réforme des bourses. Malheureusement, l'alternance des gouvernements n'a pas permis d'obtenir une réforme des bourses qui nous a été longtemps promise. Nous, on continue de le rappeler quand on les rencontre pour leur dire que, en fait, elle reste nécessaire et qu'elle ne doit pas être mise sous le tapis. Ça fait des années que dans toutes les déclarations, notamment de ministres de l'enseignement supérieur, on peut avoir justement ce souhait d'une réforme des bourses, mais au final, ça reste toujours dans les tiroirs. Donc nous, on aimerait aujourd'hui que ça aboutisse et qu'on dépasse justement l'année blanche pour arriver à un vrai investissement pour la jeunesse.
Est-ce que le gouvernement Le Cornu qui arrive, le futur de l'éducation, ça avance mieux? Ou est-ce que...
C'est compliqué à dire parce que c'est un gouvernement qui est en construction et qu'on ne connaît pas du tout. Ce sera aussi possible quand on connaîtra le nom des gens qui composeront les ministères et les cabinets. Quoi qu'il arrive, peu importe le gouvernement qui sera là, nous on fera en sorte de les rencontrer pour remonter les voies étudiantes encore et toujours. Et si on doit le faire pendant 15 gouvernements, on le fera. Mais ça fait déjà 15 gouvernements, donc on aimerait bien que ça aboutisse.
Parce que vous, on peut venir vous voir si on a besoin de conseils étudiants
sur... Exactement, ouais. Du coup, l'AGEP, l'Association générale des étudiants de Paris, on a, comme je vous disais, une épicerie sociale et solidaire qui s'appelle l'Agorée, dans le 13e.
Qui est où exactement?
Elle est du coup BNF. Okay. François Mitterrand, avenue de France précisément. Donc vous pouvez venir, nous on accueille les étudiants en dessous des critères de la bourse. Donc dès qu'on a moins de 8 € de reste à vivre par jour, donc pour s'alimenter, se loger, faire les transports, on peut venir chez nous, on peut poser un dossier. À côté de ça, on fait distribution alimentaire. Et surtout, c'est une épicerie sociale qui est tenue par des étudiants pour des étudiants. Donc nous on est là pour les rencontrer, pour discuter avec eux, pour les orienter aussi vers des dispositifs d'aide psychologique, pour les aider aussi sur des questions de défense des droits. S'il y a une question de discrimination, une question administrative, une question juridique, nous on les accompagne. Donc ouais.
Et mais c'est gratuit tout ça?
Tout ça c'est gratuit, c'est nous qui le faisons parce que face à l'urgence il faut que des étudiants, et nous on a 41 associations dans le réseau de l'AGEP, et chacune dans leur cursus elles le font, les médecins, les étudiants en médecine et les étudiants en médecine, soit en pharmacie, voilà, parce qu'il y a juste une urgence où, vu que la politique publique fait pas son travail assez pour accompagner les jeunes, c'est des étudiants qui le font pour eux.
Et donc on doit déposer un dossier d'abord chez vous pour avoir accès ensuite aux aides psychologiques ou à tout ce que vous proposez, c'est ça?
Alors ça, nous du coup, on n'en délivre pas en propre. Par contre, nous, on aide sur la question alimentaire et sur la question du lien social. On tient aussi un lieu de vie dans l'Agorée où les gens peuvent venir faire avec nous des jeux de société. Il y a une friperie solidaire, il y a des ateliers aussi de sensibilisation, etc. Donc ils peuvent venir. Par contre, à tout moment, ils peuvent envoyer un mail à mesdroits@agepparis.org. Ils envoient un mail et nous, on traitera ce mail sur leur situation. On les orientera vers les bons dispositifs. On les accompagnera autant qu'il faut.
Et vous avez constaté qu'il y a un nombre qui augmente d'étudiants qui s'inscrivent chez vous?
Bien sûr. L'année dernière, on avait 300 bénéficiaires sur l'année. Là, on vient à peine d'ouvrir. On a déjà dépassé la centaine sur même pas une semaine. Donc, ça va, sur le mois de septembre, faire un peu effet boule de neige. Donc, on a beaucoup de gens sur l'épicerie, mais aussi, on reçoit énormément de mails de défense des droits d'étudiants. Parce que, un autre cas sur le land dont je vous ai pas parlé, c'est qu'un étudiant qui est vraiment en galère et qui attend un dispositif de logement d'urgence, par exemple, ça n'existe pas à Paris pour l'instant. Nous on l'appelle de nos voeux parce que en fait c'est un peu le cas cauchemar, un étudiant ou une étudiante qui arrive à 17h30 qui n'a pas de quoi se loger. Pour la petite anecdote, il est même arrivé une fois que le SAMU social, le 115 qui avait été sollicité par une étudiante, la redirige vers nous en tant qu'asso étudiante parce qu'ils n'avaient pas de solution. Donc c'est assez ironique que le dispositif d'aide sociale se trouve sans moyen au point d'appeler les assos, et donc ça montre qu'il y a vraiment un besoin urgent actuellement sur le logement d'urgence à Paris.
Très bien. Tu voulais poser une question pour jusqu'à là? Non, pas du tout. Alors, j'en continue. Quelles réformes, selon vous, devraient vraiment être mises en place par l'État pour lutter efficacement contre la précarité étudiante?
Bah, du coup, il y en a plusieurs, selon nous. Il y a celle, je vous le disais, sur le logement. Il faut absolument que les loyers au niveau national puissent garder l'encadrement, parce que sinon, on ouvre vraiment la voie à des dérives et à un parc locatif dont on est super dépendant à Paris, en Ile-de-France. Et donc, bah, les coûts de la vie vont augmenter. À côté de ça, il faut qu'il y ait un investissement conséquent dans deux choses. Dans la réforme, une vraie réforme des bourses qui soit structurelle, où il y ait la défamiliarisation, la territorialisation, une ouverture à plus de boursiers, donc en relevant les seuils, comme je vous l'ai dit. Mais aussi, il faudrait que l'État soit investi de façon massive dans ses propres universités, en leur donnant plus de crédits. C'est l'État qui finance à 80% à peu près une université. Ce montant, il a tendance à stagner depuis des années, ce qu'on appelle une subvention pour charges de service public. Et donc, il faudrait que cette subvention, elle augmente à nouveau. Aujourd'hui, elle est à un niveau où elle couvre même plus forcément la masse salariale des enseignants-chercheurs et des personnels techniques et administratifs. Donc ça montre qu'il y a un double investissement qui doit être fait pour les étudiants via les bourses, pour les personnels et pour les universités via la subvention.
Donc vous parlez des gens qui font les thèses, qui sont au niveau où ils doivent être rémunérés par l'État, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Même les enseignants-chercheurs, en fait, actuellement, ils doivent être payés pour la production de leur savoir et pour leur charge d'enseignement, mais l'État verse de moins en moins d'argent via cette subvention, qui est un contrat en fait qui était à peu près stable et qui lançait de l'argent tous les ans. Et bah, cette subvention, elle diminue de plus en plus, et à la place, l'État favorise des appels à projets ou des contrats plus courts sur 2 ou 3 ans et non plus sur 5 ans. Et donc, bah, en fait, ça met les universités un peu dans une situation de précarité sans cesse.
Ok. Non, en fait, moi j'ai une question quand même, parce que tout à l'heure on parlait de gouvernement, vous avez rencontré, en tout cas plusieurs ministres pour le coup, et c'est quoi l'histoire? On s'en fiche, parce que c'est quand même, je disais tout à l'heure, il y a eu un rapport cette année en avril sur la précarité étudiante, là on parle bah, de coût de la rentrée et combien, on n'arrive pas à servir tous les étudiants, c'est quoi les réponses par rapport à ça, bah quand vous les rencontrez?
Le on s'en fiche, c'est un peu la réponse que tous les étudiants ont l'impression d'avoir, souvent, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas considéré dans ce qu'on fait. Nous, quand on rencontre des gens là-dessus, évidemment qu'ils comprennent l'urgence, et l'urgence, elle est facile à comprendre, parce qu'on la voit, elle est perceptible quand on voit des vidéos, des documentaires, quand on fait des interviews comme celle-ci, on la sent. On nous revend souvent le fait qu'il n'y a pas de moyens financiers et budgétaires aujourd'hui. Mais nous, on répondra toujours que bah, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est celui dans sa jeunesse, parce que c'est elle qui, derrière, pourra construire les bases d'une société qui sera plus juste, plus vertueuse, et donc bah, c'est la jeunesse qui là maintenant a besoin d'aide.
Et du coup, c'est directement lié à l'instabilité gouvernementale, tout ça, tout ce qui se passe. Parce qu'on a quand même plusieurs premiers ministres sur une année, il y a des retards de budget. Est-ce que ça impacte directement les étudiants, ça?
Bah, ça va impacter les étudiants sur plusieurs choses. C'est que comme tout le reste des autres projets de loi, on prend du retard parce qu'en fait, on peut pas avancer. La machine législative peut pas avancer aussi bien. Et donc, bah, évidemment que nous, sur une réforme des bourses, il y a des fois où la réforme des bourses aurait pu avancer davantage et une bascule politique a fait en sorte qu'elle a pas avancé autant. Ouais.
J'ai une petite question juste annexe. En ce moment, en Angleterre, ils reçoivent beaucoup d'étudiants américains dû au système de Trump. Est-ce que nous aussi, en France, on voit une augmentation des étudiants américains qui arrivent?
Pour le coup, pas nécessairement. En tout cas, à Paris, c'est pas perceptif cette entrée.
Et ben voilà, ma question est tombée à l'eau. Voilà.
On rajouterait à 20%.
Est-ce que vous avez, pour finir, des petits tips étudiants à fournir à ceux qui nous écoutent, que ce soit pour des aides, pour des sorties culturelles, pour des cartes particulières à avoir, que peut-être qui sont méconnus, les étudiants?
Et une adresse, excusez-moi, une adresse, vous avez communiqué tout à l'heure, une adresse où ils peuvent écrire s'ils sont dans le besoin.
Oui. Alors bah, déjà, n'hésitez pas à vous rapprocher si vous avez des assos dans vos écoles, des BDE, des assos, parce que c'est eux qui généralement essaient de vous représenter, de vous défendre. Ils font pas que des soirées, au contraire, généralement, non. Ils mettent en place plein de dispositifs pour vous aider et tout. Nous, on bosse avec eux et c'est grave cool parce que bah, on les voit être utiles. À côté de ça, n'hésitez pas à vous rapprocher des dispositifs des villes. La ville de Paris, elle a plein de choses en place, des quartiers jeunes par exemple, des kiosques, un centre Paris à Nîmes, on peut faire du sport toute l'année pour 100 euros à peu près. Donc faut pas hésiter à s'en rapprocher. Et puis bah, nous, notre taf, c'est justement de faire du relais d'information et de rencontrer les étudiants. Donc n'hésitez pas à suivre aussi ce qu'on peut faire sur notre page Instagram AGEP ou à nous écrire si besoin sur l'adresse donc mesdroits@agepparis.org.
Ok, et j'ai vu d'ailleurs un truc de fou hier, je savais pas, Paris rembourse les vélos. Ile-de-France aussi, jusqu'à 100 euros, et jusqu'à 400 euros en Ile-de-France, je le savais pas. Je trouve que c'est méconnu, mais si on achète un vélo neuf avec un certificat conformité, le vélo peut être remboursé, et donc avec l'augmentation des tarifs Vélib, je trouve ça vachement intéressant.
Bah c'est grave un bon plan, il y a plein de bons plans comme ça. Par exemple, les lycéens, pareil, ils peuvent se rembourser leur pass Navigo à Paris. Et les gens connaissent pas tous ces petits tips.
À 100%?
Ouais, s'il faut être résident à Paris et lycéen. C'est que pour les lycéens par contre.
D'accord, okay. Donc quand on dépasse le...
Il faut que ce soit étudiant, mais... Voilà,
ouais. Okay. D'accord, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, Simon.
Bah, avec plaisir, merci à vous.
Merci beaucoup. Tout de suite, le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Le flash info, et c'est avec vous Fabien. Alors je crois bien, enfin je suis sûre que nous déplorons quelques inondations intempéries la nuit dernière dans le sud-est.
Et oui, malheureusement, excusez-moi, bonjour. Et donc on commence effectivement avec un orage qui a traversé le sud-est de la France dimanche 21 septembre, provoquant des inondations spectaculaires. Des trombes d'eau ont perturbé les transports, provoqué des coupures de courant et entraîné le report de rencontres sportives. Les départements du Var, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ont été particulièrement touchés. Et puis, comme chaque année en Allemagne, l'Oktoberfest réunit des millions de visiteurs à Munich. Jusqu'au 5 octobre, la cité bavaroise devient la plus grande foire foraine du monde. Avec 7 millions de visiteurs attendus, elle reste l'événement festif le plus réputé d'Allemagne. Au programme, tenues traditionnelles, bière à gogo et musique bavaroise. France, Emmanuel Macron a reconnu l'État de Palestine en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Le président français a ainsi concrétisé officiellement la position historique de la France en faveur de la solution à deux États. États-Unis. Une semaine après le meurtre de l'influenceur Charles Kirk aux États-Unis, Donald Trump s'est exprimé lors d'une cérémonie d'hommage. Il a déclaré que c'était une attaque contre la nation tout entière. Et enfin, pour terminer, culture. Célèbre auteur de Da Vinci Code et figure incontournable du polar ésotérique, Dan Brown revient en librairie avec Le Secret des Secrets, publié chez Jean-Claude Lattès. Son style, souvent imité mais jamais égalé, reste unique. Avec des thématiques très modernes, ce roman réussit à être à la fois divertissant et enrichissant. À lire absolument.
Merci beaucoup Fabien. Une prochaine fois, mettez-nous de la bonne nouvelle s'il vous plaît. Et on revient après une petite pause musicale. On écoute Eloi avec le titre Metal Kid. Et il est 19h31, vous êtes sur Radio Campus Paris.
Ça commence de 0 à 10 en dynamite. Je m'étais déjà brûlé les doigts.
Nous venons d'écouter... Excusez-nous. Alors, nous venons d'écouter Éloi avec le titre Metal Kid. Tout de suite, c'est la chronique actu de Félix.
La matinale de 19h.
Connaissez-vous Bai, Ilan et Nico ? Pour ceux qui n'ont jamais entendu ces noms, eh bien, ce sont deux streamers qui vloguent, discutent en live avec leurs viewers ou font du divertissement avec d'autres streamers sur la plateforme de vidéos en direct Twitch. Ils sont à l'instant où je vous parle en live à environ 300 km de Paris alors qu'ils sont partis à pied de Montpellier le 8 septembre dernier. Ayant atteint un pic de 60 000 spectateurs en simultané, ils sont top 1 des audiences du Twitch français. C'est en fait un objectif qu'ils se sont fixé à la suite du The Event, le grand événement caritatif annuel qui rassemble plusieurs centaines de streamers pendant un week-end et auquel ils ont participé juste avant de prendre la route. La communauté de Bai Ilan a atteint un palier de donations à partir duquel ils promettaient de parcourir en 20 jours, à la force de ses jambes, les plus de 700 km qui séparent les deux villes. Finalement rejoint par Nico, l'objectif était aussi de visiter les localités qu'ils avaient prévu de traverser et faire des rencontres. Jusqu'ici, on est face à un challenge de plus parmi les nombreux qui existent déjà dans le YouTube et Twitch game. Toutefois, les deux aventuriers, depuis leur départ, se confrontent à leur popularité récemment acquise. En effet, de nombreux ados et enfants plus jeunes viennent à leur rencontre afin de les soutenir et faire des selfies. Cela est en apparence sympathique puisqu'ils peuvent rencontrer leur communauté et partager du temps avec eux. Mais apparemment, ça ne leur fait pas vraiment plaisir. Ils affichent des mines boudeuses, se laissent régulièrement aller à l'agacement et ce, dès le début du périple. Alors ces jeunes sont loin d'être irréprochables et ne prennent pas en compte que ces deux personnes travaillent et font un gros effort physique. Ces fans sont groupés autour d'eux et les interpellent, voire se placent directement à côté pour prendre des photos. Une image est d'ailleurs saisissante, on voit Nico et Bai Ilan assis sur un muret, faisant une pause, ils sont face aux jeunes qui forment une muraille autour d'eux et les fixent sans bouger. Nico parle de lui et son comparse comme des singes que seraient venus observer des visiteurs curieux. Alors leur frustration paraît légitime, car qui aimerait être à leur place ? Mais n'est-ce pas oublier que ce sont eux qui ont décidé de diffuser leur aventure en direct, facilitant leur traçage par ailleurs. Certes, cela leur permet de prouver que le challenge a été réalisé sans tricher et qu'ils ont respecté leur engagement de venir à bout de ce long périple. Mais s'ils avaient voulu être tranquilles, comme le dit Bailan dans son stream, ils auraient dû réaliser ça autrement afin d'éviter ces attroupements qui se révèlent être désagréables et parfois dangereux quand ils ont lieu sur la route. Mais pourquoi vouloir absolument tout montrer en live ? Si j'aborde ce sujet, c'est parce que ce qui m'a vraiment choqué, c'est leur façon de gérer la situation. On voit en fait deux personnages assez grossiers quand ils s'expriment, parfois montrant de l'ingratitude et traitant la plupart de ses fans comme des parasites. C'est étrange quand dans ces lives on appelle cette communauté frère ou poteau. C'est facile de se prétendre proche de ses viewers derrière un écran face à un chat et puis de les ignorer quand ils viennent à notre rencontre. Ils acceptent certes des selfies et dorment chez l'habitant, mais du reste, ils ne tentent pas vraiment d'entrer en communion. Et tout cela vient remettre en question la nature du contenu qu'ils proposent. Car quand on regarde de plus près, c'est assez creux. Entre live IRL où rien n'est préparé et tout se joue sur des potentiels événements inattendus car tout peut arriver en live, les feats avec d'autres streamers où tout le monde crie et se force à rire, il n'y a pas grand chose à garder. Et finalement, quand ils ont l'opportunité de rencontrer leur communauté, ils ne sont pas à la hauteur. Cependant, on ne peut pas les tenir pour seuls responsables car cela viendrait excuser le comportement intolérable dont font preuve certains fans avec des jets d'eux et insultes par exemple. Mais à force de proposer un contenu dont le fond est peu recherché et la forme vulgaire, eh bien on attire une partie de la jeunesse moins mature qui va mimer sans recul certaines clowneries dont elle est en temps normal spectatrice à distance.
Merci beaucoup Félix. Alors bon, bah, il parcourt 40 km, c'est ça, à pied ? Eh bien bonne chance.
Plus de 700 km ouais, en tout, total.
En ouais. 40 par jour, c'est bien ça ?
Ouais, à peu près.
Suivre sur Twitch, c'est pas de la pub. Hein. Voilà, je vous le dis. Alors tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Le Zoom, c'est avec vous, Agathe. Et ce soir, nous recevons donc Bruno Peggy. Bonsoir, Bruno. Vous êtes directeur artistique du festival pluridisciplinaire d'art queer Jerkoff, dont la 18e édition se tiendra du 19 septembre. C'est ça qui a déjà commencé ?
Ça a commencé vendredi, octobre. Ouais.
Bonsoir Agathe.
Bonsoir. Donc oui, ce soir sur le Zoom sur Jerkoff, pour nous parler donc Bruno Peggy. Donc vous êtes le directeur artistique. Première question déjà, qui êtes-vous au-delà du directeur artistique ?
J'ai créé le festival il y a 18 ans parce que à l'époque, j'organisais des soirées qui étaient des soirées gays mais ouvertes à tout le monde parce que je pensais que c'était important avec de la bonne musique électro qu'on n'avait pas l'habitude d'écouter dans le milieu gay. C'était il y a 18 ans.
C'est plus pop.
C'était encore différent il y a
encore
18
différent.
Ans. Mais et en fait, à force de faire des tournées à Amsterdam, à Londres, dans d'autres villes européennes, on se rendait compte qu'il y avait toujours un off artistique de la Gay Pride. Et en France, à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc on a voulu, au début, on a créé Pride Off. Puis Gay Pride en France, c'est une marque déposée, donc on a changé, on a vrillé sur Jerk Off.
Parce que Pride Off, c'est une association LGBT de danse, donc pour les auditeurs qui ne savent pas.
Voilà, c'est l'association qui porte le projet du festival Jerk Off et qui, en plus du festival, qui est un peu la partie visible de l'iceberg, on essaye d'être présent sur des moments forts dans des collèges, dans des lycées, avec des programmes éducatifs, et on essaye de développer des projets avec d'autres festivals ou des universitaires un peu partout en Europe.
Ok. Alors, quel est le rôle d'un directeur artistique de festival? Comment on choisit les lieux? Comment on choisit les artistes qui vont se présenter?
Alors, comment on choisit les lieux? Ça, c'est...
Parce qu'il y en a 10 dans toute l'Île-de-France. Je ne sais pas si on l'a dit, mais...
Oui, on est un festival dans... Effectivement, on est dans différents lieux. Alors, à Paris, on ne choisit pas les lieux, c'est plutôt les
lieux qui nous choisissent.
On aimerait bien, hein, mais non, ce n'est pas un luxe qu'on a. Après, on est très content et très heureuse des lieux qu'on a cette année, parce qu'à chaque fois, il y a... On essaye de fonctionner par projet, d'avoir des envies, d'avoir des communautés, des pratiques qu'on a envie de mettre en avant. Et après, on s'interroge sur les lieux qui peuvent les accueillir. Je pense par exemple à la soirée d'ouverture qui a eu lieu vendredi. On était au Labo d'Aubervilliers parce que déjà, c'est un lieu qui défend beaucoup, qui est peut-être une vision de la société qui correspond à celle du festival également. Et puis surtout, c'est une date sur laquelle on a parlé de Crip, de queer dans des corps fragilisés, de validisme. Et les Labos d'Aubervilliers, c'est une salle qui est accessible. Donc c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur cette date avec Lucie Camus, on s'est vraiment interrogé sur quelle salle peut accueillir ce projet, mais où les fauteuils roulants pourront rentrer facilement dans la salle, où il n'y aura pas forcément des pavés, une descente trop forte. Donc là, c'est l'exemple effectivement de salle. Peut-être aussi pour le point éphémère où on a un concert ce jeudi, donc ça c'est pas encore passé, avec trois artistes et une MC. On s'est demandé, on voulait une salle où il y ait vraiment un bon système sonore, où il y ait en plus quelque chose, une belle proximité avec le public. C'est pour ça qu'on a proposé, on a eu envie de faire cette date au point éphémère. C'est toujours un peu du sur-mesure.
Oui. Festival d'art queer, ça peut paraître un peu nébuleux. Parle-t-on d'art fait par des personnes queer ou d'art ayant pour objet la queerness? Et est-ce qu'il se définit en opposition d'un ce qu'on appellerait un art straight?
En fait, déjà, je préfère qu'on se définisse pas en opposition, parce que je pense que les communautés queer, elles sont suffisamment riches et variées pour qu'on n'ait pas besoin de comparer à quelque chose, en fait. Moi, je demande jamais la sexualité des gens avec qui je travaille. Peut-être qu'il y a une intuition. Pendant longtemps, j'aimerais bien te parler de fragilité d'un projet. C'est un projet qui va mettre en avant une certaine sensibilité, quelque chose de d'un peu différent, un peu à la marge. Maintenant, c'est ce que veut dire queer, en fait, un peu différent, un peu à la marge. Donc, on se pose vraiment pas la question de la sexualité des gens avec qui on travaille. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été comme ça. Par contre, effectivement, on a toujours des projets qui vont défendre un mode de vie, qui vont défendre quelque chose qui doit... Le projet doit être queer dans ce qu'il propose. Ça, c'est la règle qu'on s'est fixée. C'est que des fois, il y a des projets qui sont très beaux, qui ont des thématiques qui sont très fortes, mais c'est pas forcément la queerness n'est pas forcément ce qui est mis en avant en premier, en tout cas, donc ça va moins nous intéresser pour Jerk Off.
Dans votre édito, vous évoquez le budget en baisse de 54%, auquel même vous vous opposez. Quelles sont les raisons de cette baisse?
C'est multiple, en fait. C'est que alors déjà, je voudrais remercier la mairie de Paris, qu'on a été voir avec différents arguments et qui nous a soutenus et qui nous a augmenté nos budgets cette année. Donc ça, je tiens à le dire. C'est un mélange de beaucoup de choses. En fait, tous les budgets qu'on a gardés sont tous à la baisse. d'à peu près 30%. Je pense à la DRAC, je pense à la DGCA, ministère de la Culture. Donc ils sont toujours là, mais d'une façon moins importante. Par exemple, sur la date qu'on a faite vendredi, on a été soutenu pour la date.
On avait également gratuite, c'est ça.
C'était oui, on a souvent des propositions gratuites. Donc on a été soutenu pour la production de la date. On avait aussi demandé à être soutenu pour la langue des signes. On n'a pas eu le soutien de la langue des signes, par exemple. Donc, malheureusement, on a dû se passer de traduction en langue des signes pour cette soirée parce que c'était des montants qu'on pouvait pas nous mettre sur la table comme ça. On a des soutiens qu'on n'a pas eu cette année pour de multiples raisons. C'est vrai qu'on est on s'interroge sur le non-soutien de la DILCRA, qui est donc l'extension du Premier ministre qui lutte contre les discriminations. Contre toutes les discriminations. Bon, c'est un budget que habituellement on a cette année, on ne l'a pas eu. Bon, voilà. Donc c'est, il y a un peu tout ça qui fait que la baisse au final est de 54%.
Est-ce que pour vous c'est important d'offrir une scène artistique pour les personnes queer pour lutter contre les discriminations justement?
Alors, offrir une scène aux personnes queer, ça c'est important tout court. Et lutter contre les discriminations, oui, parce que je pense que en fait le pareil, on n'a pas la sexualité des gens qui viennent voir nos spectacles, en fait. On est ouvert à tous. Et c'est vraiment quelque chose que... Lutter contre les discriminations, c'est d'avoir à Aubervilliers, qui est peut-être pas la ville la plus queer-friendly de France, et quoique, la question se pose, parce qu'il se passe beaucoup de choses très sympathiques aussi, mais d'avoir des lesbiennes qui viennent parler de handicap ou de validisme. Je pense que c'est une visibilité qui fait que, oui, ça lutte contre les discriminations. C'est un exemple, mais toutes les propositions qu'on a, il y a toujours un moment, d'une façon ou d'une autre, parce que les façons de lutter contre les discriminations est heureusement multiple et variée, donc il y a toujours cet angle de lutte contre les discriminations qui apparaît.
Cette année, Djerkov fête ses 18 ans.
Youhou !
Vous posez un regard également nostalgique comme inquiet sur le festival et la société. 18 ans, c'est la fin de l'insouciance.
Je ne sais pas si à Djerkov, il y a eu un moment où on était insouciant. Mais je pense que quand on est queer, il y a toujours beaucoup de questions qui sont dans notre tête et on essaie d'y répondre de la meilleure façon. Je dirais pas que c'est la fin de l'insouciance, mais en tout cas, c'est plus que malheureusement, ça fait plusieurs années que on voit certaines des gens, même dans Paris, qui un couple qui va se donner la main, qui va se faire insulter, ou des choses qui est peut-être il y a 15 ans qui ont toujours été là, mais qui étaient peut-être un peu moins marquées et un peu moins fréquentes. Enfin, force est de constater que quand on lit les rapports de SOS homophobie, malheureusement depuis 2-3 ans, les crimes homophobes sont en hausse et les insultes homophobes sont en hausse. Donc ça c'est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'effroi et avec beaucoup d'inquiétude parce que on a l'impression des fois de faire un peu marche arrière. Puis quand on regarde ce qui se passe dans la société, malheureusement dans le monde autour de nous, on a l'impression qu'il y a des combats qu'on pensait avoir gagnés il y a 10-15 ans, qu'il faut qu'on remène à nouveau. On va les mener parce qu'on ne se laissera jamais faire, on se relèvera toujours. Mais c'est bizarre de voir que 15 ans après, il faut revenir sur des questions qu'on pensait être réglées.
On va peut-être parler des dates à venir. Vous avez parlé de la soirée du 25 septembre au Point Éphémère avec des danseurs comme Roméo.
Alors oui, Roméo il chante, mais effectivement j'ai pas le dernier chiffre, mais au dernier pointage je crois qu'il était avec 14 personnes sur scène, des danseuses, donc effectivement c'est une proposition qui est assez assez conséquente sur scène. On a trois groupes du coup sur scène. On a aussi Jage Hope qui est une artiste non binaire qui vient des Caraïbes. On va aussi avoir Thanks for Crying. C'est un peu dur à dire quand on est dyslexique comme moi. C'est un projet musical un petit peu hyper pop, des textes intimes avec une énergie de club. Donc on est très content de pouvoir la programmer. Et on a surtout Countess Pinkessa qui va faire MC parce qu'on s'est dit qu'une fête queer de concert avec trois groupes, il fallait qu'on ait forcément quelqu'un qui mette un peu le bazar sur ça.
Après, il y a le Cabaret Fier, Ascendant Queer au Sample. Le 26 septembre.
Voilà, ça fait 3 ans qu'on va dans la direction du cirque, parce que justement c'est peut-être un art qui est pas forcément l'art le premier auquel on pense quand on parle de queerness. Bah si, en fait.
Il y a les freaks, il y a
exactement, et puis il y a tout burlesque. Un historique, exactement. Et Cirque Fier, donc leur cabaret qui s'appelle Ascendant Queer, ils nous ont beaucoup touchés quand ils sont venus nous voir, c'était il y a 4-5 ans je crois, enfin, et ils nous parlaient de créer des espaces safe pour les répétitions, et bah on s'est dit que c'était vraiment le genre d'initiative qu'on avait envie d'encourager, parce que justement c'est Jerk Off, on est aussi là pour créer des espaces safe, que ce soit pour le public, pour les artistes, et on a trouvé qu'on partageait beaucoup de choses similaires.
Vous avez aussi une association avec Artagon.
C'est ça.
Qui sont des résidences d'artistes, si je ne me trompe pas.
Exactement. Artagon, c'est une ancienne école primaire, je crois, ou un collège à Pantin. Et pendant la durée des... ils doivent faire des travaux, donc ça a été confié à une association de... Enfin, l'association Artagon, elle existe depuis 10 ans et elle accompagne les artistes émergents de différentes façons. Les résidences d'artistes, c'est une des façons qu'ils ont de justement aider les artistes à pouvoir présenter, créer leur travail. Donc on a sélectionné une dizaine d'artistes queer qu'on suit depuis, ils sont arrivés l'année dernière, donc on avait déjà fait des visites d'atelier l'année dernière, mais ils étaient encore un peu dans les cartons parce qu'ils venaient vraiment d'arriver. Là, ça fait un an qu'ils sont sur place, donc on a envie d'approfondir cette relation avec des artistes qui sont tous de jeunes artistes, avec donc visite d'atelier, parce que je pense que c'est ce qui permet au public de comprendre comment on passe de l'idée à la création. On a aussi 4 ateliers de pratique amateuriste qui se dérouleront également l'après-midi, et le soir on a 3 performances dans l'atrium, parce que donc c'est une école, une ancienne collège on va dire, donc il y a vraiment ce grand préau avec des rambardes de tout autour, et on est assez excité de cette idée d'avoir les performances au rez-de-chaussée, et les gens pourront regarder de différents points, différents endroits, et puis on va y avoir des lectures, il va y avoir des performances autour du burlesque et autour des costumes, voilà, donc on essaye de toujours aider les artistes émergentes.
Donc ça sera samedi. Le lendemain, on a des auto-éditions dans les bars queer de Beaubourg. Et puis après, un seul en scène au Théâtre 13. Et vous clôturez avec une dernière pièce de théâtre à l'Étoile du Nord.
À l'Étoile du Nord, on a 3 propositions très militantes aussi, mais vous pouvez tout aller voir sur le site de Jerk Off. Et peut-être juste une dernière chose, le samedi prochain, on sera au club rue Saint-Denis pour le bal des terminales, parce que comme c'était les 18 ans, donc il fallait quand même qu'on fasse quelque chose. Et on fait ça avec nos amis de Friction Magazine.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et vous allez peut-être m'aider parce que la petite pause musicale se fait avec un des artistes, alors c'est SZN Waves, c'est bien ça? Avec le titre Diamonds. Ok, c'est parti.
Okay.
Yeah, love me, I'm
Alors, nous venons d'écouter SNZ.wave avec le titre Diamond. Il est 19h56 et tout de suite, c'est la chronique de Delila.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Alors cette semaine, pour une rentrée qui démarre sur les chapeaux de roue ou n'importe quelle autre forme, j'ai décidé de vous parler de la taxe Zuckman, celle qui est sur toutes les lèvres. Amour durable, impuissance, réparation Mac et PC ou encore retour de l'être aimé, on lui prête bien des choses. Alors place au grand décryptage. De tout temps, l'homme a soutenu Nicolas Sarkozy avant de travailler pour un gouverneur autoritaire en Géorgie de 2009 à 2012, puis de se maquer avec la pire journaliste du PAF et il a fallu le taxer pour ça. Ouais, excusez-moi, c'est la rentrée, on se gourre dans les fiches, ça c'était mon dossier sur la taxe Glucksmann. Alors la taxe Zuckman, c'est une taxe que le PS invoque en condition sine qua non pour ne pas censurer le gouvernement le cornu. Bon déjà, si c'est le PS qui brandit ça, c'est que c'est au mieux un peu gauche-molle, au pire de la grosse merde. En gros, ça dit, les ultra-riches, on prend 2% de leur fortune chaque année, et là, tollé au Sénat, oui, c'est 1984, les riches ne peuvent plus être riches, qui va me torcher le cul si on ne bénéficie plus du crédit d'impôt ? Bon, clairement, on est loin d'une mesure de confiscation communiste, hein, c'est juste un tout petit début de repartage des richesses. Du coup, monsieur Bernard Arnault, il dit... Qu'est-ce qu'il dit déjà ? Putain, mais c'est qui a laissé la porte ouverte du studio, là ? Bernard, calme-toi. Tu veux parler ? Monsieur Zuckman, il veut tout voler, mon gros gâteau. Mais enfin, Bernard, ton gâteau, il fait la taille de la Chine. Tu vois même pas le bout. Est-ce que tu peux pas laisser une petite part ? Oui, mais c'est le mien. D'accord, Bébert, on va trouver. Mais tu t'es chié dessus ou je rêve ? Là, c'est une blague. Mais c'est Zuckman, il veut mettre à terre l'économie. Bon, tu files dans ta chambre et pour la peine, je te confisque Louis Vuitton. Bon, j'en étais où, moi ? Zuckman, la taxe, sauce tomate, spaghetti et liquide vaisselle, les salauds de riches. Ah oui, voilà, les salauds de riches. Pour finir, comme d'habitude, tout le monde est prêt pour taxer les riches, sauf les riches et leurs petits copains. Selon l'IFOP, il y a 86% de Français qui seraient pour la taxe Zuckman. Mais bon, si Manu Max écoutait le peuple, ça se saurait. Moi, monsieur Zuckman, je le trouve pas assez audacieux. Si on me demande, je dis qu'on prend tout aux ultra-riches, on transforme leurs usines en scop, leurs domiciles en pistes cyclables et on les envoie fabriquer des selles de vélo. Comme ça, on pourra, sous leurs yeux ébahis, rouler sur le patrimoine de ces énormes parasites.
Merci beaucoup, Delila. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette matinale. C'était Francesca à l'animation. Merci à nos invités. Simon Elien, président de la JEP, et Bruno Peggy, directeur du Festival pluridisciplinaire d'art queer Djerkov. Merci Hugo à l'interview. Fabien pour le Flash Info. Nos chroniqueurs Félix et Delila. Merci Agathe pour le Zoom. Nils pour la réalisation. Aude et Jeanne à la coordination de cette émission. On revient demain, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radioparis.org pour écouter tous nos podcasts. Très bonne soirée sur le 93.9 et à demain.